L'étude du droit ne saurait être envisagée sans connaître ce que recouvre le mot droit et quelles sont les sources du droit. C'est pourquoi, après avoir expliqué la notion de source du droit et envisagé les sciences explicatives du droit, nous verrons quelles sont les diverses sources du droit en France actuellement. Donc, tout d'abord, la notion de source de droit. À cet égard, il convient de préciser une distinction importante. Il s'agit de la distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs. Le droit objectif comprend l'ensemble des règles de droit et non pas uniquement les lois votées par le Parlement. Toute disposition ayant une valeur normative constitue donc le droit objectif. Par contre, on appelle droit subjectif les droits individuels découlant du droit objectif. Ce sont donc les prérogatives conférées à chaque individu. Toute personne a nécessairement des droits subjectifs car elle est apte à être titulaire de droits et obligations. Ces droits subjectifs découlent de la règle de droit, donc du droit objectif. La loi, au sein des sources du droit, se distingue par ses caractères. La loi est dite générale, permanente, obligatoire, abstraite, et elle émane de l'autorité publique. La loi est connue de tous en vertu de sa publication et très souvent de sa codification. Nul n'est censé l'ignorer et ne peut ainsi se soustraire à son application. Toute méconnaissance de la loi expose en conséquence à des sanctions civiles ou pénales. Si la loi est obligatoire, elle n'est pas nécessairement impérative. La loi peut en effet être impérative ou supplétive. Lorsque la loi est supplétive, elle ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire des parties. On dit alors de la loi qu'elle est supplétive de volonté. Les titulaires des droits subjectifs peuvent en effet écarter les dispositions d'une loi supplétive, mais une manifestation de volonté en ce sens est obligatoire. Sont supplétives les lois qui ne sont pas d'ordre public et qui concernent des droits dont les parties ont la libre disposition. Par contre, les lois impératives s'imposent toujours et les parties ne peuvent pas y déroger. La loi est également contraignante et son application est sanctionnée par l'autorité publique, laquelle soit impose une obligation, soit confère un droit qui doit être respecté par autrui. Le non-respect de la règle de droit trouve sa sanction dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Le rôle du juge est en effet d'assurer le respect de la règle de droit. La règle de droit, donc le droit objectif, doit être distinguée de d'autres règles. Il existe en effet des règles de bienséance, des règles morales, des règles religieuses. Les règles de bienséance reposent sur un code de bonne conduite. Elles ne s'imposent que dans les rapports individuels et traduisent une marque de respect. Elles ne font pas l'objet d'une sanction étatique, mais d'une sanction morale et collective. La société réprouve en effet le non-respect des règles de bienséance. Par exemple, dans un restaurant, le pourboire n'est pas obligatoire, mais il est d'usage de laisser un pourboire. Il en va de même des règles protocolaires qui s'imposent dans certains milieux, qui n'ont pas de force contraignante, si ce n'est au regard de l'opinion collective. Le non-respect des règles de bienséance ou protocolaire est ainsi sanctionné par la réprobation générale, mais aucune sanction étatique n'est applicable. Les règles morales ou religieuses ne sont pas plus contraignantes au regard de l'autorité. Elles s'imposent cependant à chaque individu au plus profond de sa conscience. C'est donc une sanction personnelle et intérieure qui renvoie tout individu aux règles morales ou religieuses. L'application de cette sanction ou plutôt son ressenti, dépend alors uniquement des croyances de chacun ou de ses valeurs morales. Mais les règles religieuses reposant sur des croyances individuelles se distinguent des règles morales ou de bienséance. En effet, la religion impose également sa loi et dans certaines sociétés ou dans certains domaines, le droit laïque cohabite avec le droit religieux. Enfin, certains pays tirent leurs lois de la religion d'État. D'ailleurs, même en France, sous l'Ancien Régime, le droit canon pénétrait incontestablement la société civile et non seulement influençait, mais encore continuera pendant très longtemps à influencer notre droit. Par ailleurs, droit et morale entretiennent des relations certaines. Pour Kant, droit et morale s'opposent tant par leur finalité que par leurs sanctions. Le droit a une finalité sociale, alors que la morale a une finalité individuelle. Le non-respect du droit est sanctionné et celui de la morale, non. Ripper devait alors opposer un démenti flagrant à cette théorie en relevant que la morale imprègne nécessairement le droit. Il est vrai que la contrainte étatique distingue sans conteste la morale du droit. Il est vrai aussi que toute règle de droit ne participe pas de la morale et que toute règle morale n'est pas nécessairement prise en compte par le droit. Néanmoins, l'autonomie n'est pas totale et le droit se réfère très souvent à la morale. C'est ainsi que l'article 6 du Code civil dispose qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Par ailleurs, le Code civil prévoit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Or, la bonne foi s'apprécie au regard de la morale dans de nombreux cas. Enfin, et toujours à titre d'exemple, il est incontestable que les lois sur la bioéthique, à partir de 1994, ont pris en compte la morale pour réglementer ou interdire certaines pratiques, comme les expérimentations sur le corps humain, le clonage ou les conventions de mères porteuses. À cet égard, par un arrêt du 31 mai 1991, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, bien avant que la loi n'intervienne, posa clairement le principe selon lequel la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. L'illicité des contrats de mère porteuse était ainsi consacrée et nul doute que la morale n'était pas absente de cette décision. Un exemple patent de la prise en compte de la morale et des bonnes mœurs en droit réside aussi dans la jurisprudence sur les libéralités. En effet, les libéralités consenties entre concubins, bien que non visées expressément par le Code civil, ont longtemps été considérées comme nulles. Elles ne furent déclarées valables par la jurisprudence que si elles avaient pour but l'exécution d'un devoir de conscience, comme par exemple le fait de ne pas laisser sans ressources une concubine avec un enfant ou le fait de récompenser l'aide apportée par un concubin à l'autre dans l'exercice de son activité professionnelle ou pendant une maladie. En dehors de ces hypothèses, la jurisprudence annulait les libéralités pour cause illicite lorsqu'elle estimait qu'elle n'avait pour but que le maintien des relations. La Cour de cassation a cependant franchi un pas important en admettant dans un arrêt fort remarqué que les donations consenties, même pour le maintien de relations adultérines, ne peuvent être annulées comme étant fondées sur une cause immorale. Cet arrêt de principe de la Cour de cassation rendu par la première chambre civile le 3 février 1999 a constitué une évolution importante dans la reconnaissance du concubinage en droit et dans l'appréciation des situations morales ou immorales par le droit. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence avec un arrêt du 29 octobre 2004, en retenant que la cause d'une libéralité dont l'auteur entend maintenir une relation adultère n'est pas contraire aux bonnes mœurs. En l'espèce, un homme âgé de 95 ans avait institué sa légataire universelle, sa secrétaire et maîtresse âgée de 31 ans. Un an plus tard, il décédait et sa veuve ainsi que sa fille demandèrent en justice l'annulation de ce legs pour cause illicite en faisant valoir que sa cause serait contraire aux bonnes mœurs puisque le seul but de cette libéralité aurait été le maintien d'une relation adultère. Ce que la Cour d'appel de Paris a effectivement retenu dans un arrêt que devait casser l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Cet arrêt permit alors à M. Bicheron, annotateur de l'arrêt dans la revue Dalloz de droit de la famille en janvier 2005, d'écrire « Puisque la rémunération d'une relation adultère est dorénavant de bonnes mœurs, en droit des libéralités, on est curieux de savoir quels sont les comportements que les juges de la Cour de cassation considèrent comme relevant des mauvaises mœurs. » On voit donc par ces décisions que le droit lui-même se réfère à la morale ou y renvoie. La morale imprègne donc nécessairement notre droit.